Alors, évidemment, le vaccin d'AstraZeneca qui soulève beaucoup, beaucoup de questions. J'ai fait un peu le ménage dans les courriels, puis je pense que les auditeurs sont légitimes, s'interrogent. Hier, on le sait, pas juste au Québec, là, on a annoncé au Canada que le vaccin, pour un certain temps, à tout le moins, ne sera pas administré aux gens de 55 ans et moins. Je fais le point avec le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Dr Arruda, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, vous comprendrez, comme on dit en termes de marketing, que l'image du vaccin d'AstraZeneca est hypothéquée. Peut-être d'abord expliquer aux gens pourquoi on le donnerait aux personnes de 55 ans et plus et pas aux personnes de 55 ans et moins.
Oui, je comprends très bien, vous avez raison. C'est un vaccin qui a mauvaise presse avec toute une série d'éléments. Par contre, il faut comprendre que le vaccin AstraZeneca demeure un vaccin qui sauve des vies. C'est un vaccin qui est bon pour protéger contre les complications de la COVID-19. Et les gens qui ont en haut de 55 ans ont un risque d'avoir la maladie, d'être hospitalisés, d'en avoir des complications. Donc, et on n'a pas trouvé de phénomène, en tout cas, on est en train de les investiguer encore, thromboembolique de la même façon qu'on a trouvé chez les en bas de 55 ans. Donc, ici, actuellement, ce qu'on fait, c'est une pause par prudence, parce qu'on a trouvé qu'il y a peut-être une association entre le vaccin et certaines réactions immunitaires chez les populations plus jeunes, notamment les femmes, qui amènent un problème de thrombose. Pour les autres en haut de 55 ans, actuellement, on n'a pas découvert ces éléments-là. Et le risque de COVID-19, qui peut aussi entraîner des problèmes de coagulation, est important chez cette population-là. D'où la raison pour laquelle il peut encore être administré à ces clientèles-là.
OK. Quand je fais ma réservation pour obtenir le vaccin, et moi, là, je le veux pas, le AstraZeneca, pour toutes sortes de raisons, j'ai des antécédents, bref, et c'est un vaccin qui me plaît pas. Est-ce que je peux le refuser?
Premièrement, jamais, depuis le début de la campagne, on donne un vaccin que les gens ne veulent pas avoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un consentement éclairé. Là, actuellement, ce qui se passait, c'est que les gens se présentent en clinique. Et à cause que c'est très rare, à cause qu'on n'a pas beaucoup de vaccins, on ne pouvait pas donner le choix aux gens par rapport à la vaccination. C'est clair, ça devient logistiquement très, très complexe. Par contre, là, actuellement, ce qu'on va voir, c'est que, un, les gens vont toujours avoir l'information. S'ils ne veulent pas se faire vacciner par ce vaccin-là, on leur redonnera un autre rendez-vous. Et il est même possible là, qu'on ajuste éventuellement nos rendez-vous pour que les gens sachent que à cette clinique-là, ce qu'il va y avoir, c'est de l'AstraZeneca. On est en train de réévaluer toute cette mécanique-là, là, mais soyez assurés que nous, on considère que s'il est donné en haut de 55 ans, c'est qu'il est, il va être sécuritaire, mais les gens pourront quand même exercer leur droit de refus, à mon sens, ou de ne pas vouloir ce vaccin-là. Là, on va respecter ça.
Et prendre un autre rendez-vous dans l'espoir, cette fois-là, d'avoir accès à un autre vaccin.
Oui, puis peut-être même, puis là, je ne veux pas m'avancer trop, là, parce qu'il faut regarder les éléments de logistique, là, surtout quand on va avoir beaucoup plus de vaccins, et peut-être même à ce moment-là, savoir qu'à cette clinique-là, c'est tel vaccin qu'il va avoir, ou il pourrait y avoir des cliniques spéciales à AstraZeneca. Pour les gens qui pourraient décider de vouloir se faire vacciner plus tôt, il y en a pour lesquels qu'ils ont des facteurs de risque importants. Et comme c'est un vaccin quand même qui a été donné à beaucoup de gens, on n'a pas eu aucun événement au Québec, là, je pense qu'il faut le mentionner comme tel, mais par prudence, on n'a pas pris de chance avec les signaux qu'on voyait en Europe.
OK. Les gens qui ont déjà reçu le vaccin d'AstraZeneca, qu'est-ce qui arrive pour la deuxième dose? Est-ce qu'ils vont recevoir, et je pense aux gens, là, ils sont pas si nombreux, mais il y en a quand même quelques milliers, là, de gens de 55 ans et moins qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Alors, bref, est-ce qu'ils ont la deuxième dose?
Bien, on est en train de faire l'évaluation. Il y a des données, des recherches qui se font notamment aussi en Angleterre pour voir des nouveaux protocoles. Je vous dirais, dans mon feeling, puis comme je vous dis, il ne faudrait peut-être pas que je m'avance, mais je vais le faire quand même. Il y a une forte probabilité que ce soit un autre vaccin qu'on donne. C'est-à-dire qu'on va compléter par un vaccin à ARN la deuxième dose. Mais il faut falloir voir, un, si ça fonctionne, et deux, qu'est-ce qui va être recommandé par les études qui vont avoir lieu.
OK. Je pensais qu'on ne pouvait pas passer d'un fabricant à l'autre.
Il y a de plus en plus d'études qui se font avec des études, ce qu'on appelle des protocoles mixtes, pour aller chercher les avantages du vaccin non ARN puis les avantages du vaccin ARN. Donc, c'est pas actuellement ce qui est fait, parce que Les données cliniques ne sont pas encore assez rendues au rendez-vous, mais c'est en train de s'analyser. Et je pense que ça pourrait faire partie d'une bonne stratégie.
Je comprends que vous n'êtes pas dans le détail là, de l'opération vaccination, mais si le AstraZeneca se retrouve sur une tablette, en tout cas moins administrée, avez-vous l'impression qu'on va être capable de vacciner tous les Québécois qui le veulent d'ici le 24 juin?
Il faut falloir revoir les calculs de scénario parce que, vous savez, le 24 juin, c'est proche, mais en même temps, il y a encore des modifications par rapport à des doses de vaccins qui pourraient rentrer. Il y a d'autres vaccins qui vont peut-être rentrer dans le marché. Peut-être que nos livraisons de Moderna puis de Pfizer vont aussi être augmentées. Là. C'est que je pense qu'actuellement, c'est à peu près 300 000 doses, là, d'après ce qu'on a eu comme information qu'on aurait reçue la semaine prochaine ou qu'on va recevoir même cette semaine ou la semaine prochaine. Moi, on me dit que l'impact est là, mais il n'est pas si significatif. Et on va essayer de compenser par d'autres types de vaccins s'ils sont au rendez-vous, bien entendu.
OK. J'ai beaucoup de questions d'auditeurs. Là. Je vous parle de ceux de la grande région de Montréal là, qui se disent, moi, j'habite à Laval. J'ai, par exemple, 60 ans. Je ne suis pas encore admissible à la vaccination. Mon frère ou mon ami qui habite Montréal à 60 ans peut aller se faire vacciner. Avez-vous l'impression, parce que je remarque aussi qu'il y a beaucoup de plages horaires qui sont vides, tu sais qu'il y a des gens qui pourraient... En fait, on pourrait maximiser l'efficacité de la vaccination.
Je vous dirais que vous avez raison. En théorie, l'enjeu qu'on a, c'est la quantité. Puis vous savez, le Québec, c'est grand. Il faut aussi être juste par rapport aux autres régions que la région de Montréal et de Laval. C'est vrai que pour toutes sortes de raisons, parce que les populations ne sont pas les mêmes, puis il y a même des gens de la Montérégie ou de Laval qui sont peut-être allés se faire vacciner à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a eu. À un moment donné, on a entendu parler qu'il y en avait eu. Là. À cause de la distribution des groupes d'âge, par exemple, la quantité de personnes qui habitent en CHSLD, etc., ça peut changer. On a aussi choisi initialement, au début, tout particulièrement parce que l'épicentre de l'épidémie était à Montréal, d'envoyer un peu plus de doses au début. Mais ça devient, vous avez raison, là, perceptuellement, on a l'impression, parce que, vous savez, on n'est pas pour retarder une région pour que l'autre arrive au même niveau. Si on ferait ça, globalement, au Québec, on n'arriverait pas à utiliser nos doses de vaccins de façon importante. Puis quand on regarde ce qui se passe ailleurs au Canada, le Québec performe relativement bien. Il n'y a rien de parfait, surtout qu'il n'y a rien de parfait parce que les vaccins ne sont pas au rendez-vous. Parce que vous pouvez assurer, là, si on avait du vaccin en quantité, en stock, dans nos frigidaires, il ne resterait pas là, puis il serait distribué partout, puis on irait beaucoup plus vite.
OK. L'autre question qui revient beaucoup, là, puis je ne veux pas devancer le point de presse de 13 heures, là, mais il y a eu des appels qui ont été faits par des experts, j'inclus le Collège des médecins, là, vous invitant à l'extrême prudence en disant il y a les variants, il y a le retour à l'école, on s'en va vers le congé de Pâques, il y a d'autres fêtes religieuses également, il y a un potentiel ou une tentation de rassemblement. Autrement dit, les prochaines semaines, je vais être gentil, là, présentent un bon nombre de défis. Puis en même temps, on a un sondage où les gens commencent à être un peu moins là, confortables avec les mesures de confinement, le sondage Crobe la fin de semaine. Comment vous allez concilier notre besoin de prendre l'air, de respirer pendant les prochains jours, les prochaines semaines, et la présence de ces variants qui, on le voit là, posent des problèmes. On le voit à Québec actuellement, on le voit dans beaucoup d'écoles aussi.
Vous avez raison. Écoutez, c'est un jeu d'équilibre qui est excessivement difficile. Si je veux donner l'image que je dis tout le temps depuis le début de cette pandémie, là, il y a un fil de fer entre deux grandes tours à New York ou à Montréal, puis on est là-dessus. On marche là-dessus. Puis les gens fluctuent entre « on n'en peut plus, si vous ne nous donnez pas de laisse, on va faire ce qu'on veut » et d'ailleurs, les gens se laissent aller, versus « on a peur, les variants sont là ». On comprend très bien ces émotions-là. Nous les vivons aussi. Puis là, il faut être capable de faire un certain équilibre. Parce qu'au-delà, et on savait que les variants allaient augmenter. On savait qu'on allait avoir les variants début avril, à peu près 50% de toutes les sources au Québec. C'est clair. La chose la plus importante, oui, c'est les allègements ou pas, ou les contraintes, mais c'est aussi le comportement des individus, l'adhésion. Si les gens adhèrent, puis vous savez, même cet été, quand on va être, si on revient à un certain hiver, là, tant qu'on n'aura pas vacciné beaucoup de gens, il va falloir porter des masques, avoir la distanciation de 2 mètres et puis se laver les mains. Là. Ça demeure la base de toutes nos interventions. Il va falloir respecter les protocoles qu'on met en place dans les gyms, ailleurs, etc. Et là, il va falloir aussi qu'on pénalise probablement les endroits où on ne fait pas, on ne respecte pas ça pour ne pas pénaliser toute la société.
Non, je comprends, mais je vous donne l'exemple, Dr. Arruda. Là, le gym à Québec, là, qui a eu je ne sais plus combien de dizaines de cas, là, officiellement, on parle de plus de 40, il y en a qui disent que c'est plus. Une éclosion dans le gym, on se rend compte qu'il n'y avait pas de personnel qui supervisait, que le port du masque n'était pas non plus suivi, qu'on ne nettoyait pas les appareils. Puis là, semble-t-il que le gym, il va rouvrir.
Mais c'est ça, on va voir. Là. Moi, je vais avoir des discussions avec le directeur de santé publique et avec la SNIST par rapport à ce dossier-là. Je n'ai pas été personnellement impliqué à date. Par contre, moi, je trouve qu'il faut falloir que les gens comprennent que si ça... parce que quand on fait ça, là, quand un établissement fait ça, ben il y a des effets sur tous les autres établissements. Et là, la réaction, c'est qu'on ferme tout le monde. Et là, il faut que vous compreniez aussi que la santé mentale, il y a des gens actuellement qui vont couler leur année s'ils ne retournent pas à l'école de façon adéquate. Il y a la violence faite aux femmes. Il y a plein d'enfants qui sont dans des contextes, quand on confine, qui créent des problèmes importants. Puis ça, on a tendance à l'oublier actuellement. Puis on regarde, mais on va regarder tout ça. Là. On va regarder l'impact sur les hospitalisations. Vous savez, le facteur hospitalisation va être très important cette fois-ci, notamment aux soins intensifs par rapport à ce qu'il y avait antérieurement. Et à ce moment-là, si on a à resserrer, on va resserrer. Mais l'oubliez pas, là, si les gens ne veulent pas qu'on revienne à un confinement total, il faut falloir qu'ils adhèrent aux mesures. Puis si les gens n'adhèrent pas, ben là, on n'aura pas d'autre choix que d'intervenir. Mais il faut faire attention au phénomène du yo-yo. J'avance, je recule. Puis en même temps, si on est trop strict, ben les gens, ils font quand même.
Mais vous savez que si vous êtes pris de retourner vers un confinement total, que vous refermez des magasins, que vous repassez des régions au rouge, là, je me demande si les gens vont vous suivre cette fois-là.
Écoutez, je ne sais pas. Je vais vous le dire bien honnêtement. J'espère que oui. J'espère que les gens vont comprendre que si on se retrouve avec nos soins intensifs en train d'avoir des problèmes, si on est en train de revivre ce que vivent certains autres pays, et même à côté de chez nous, l'Ontario, comme tel, que les gens vont vouloir collaborer. Mais je vais vous dire aussi, est-ce que de toujours rester longtemps sans aucune liberté ou certains accès, ça va permettre aux gens d'adhérer. On fait des sondages. Hein. Il y a des sondages sur les intentions de couverture vaccinale, combien de personnes font les trois mesures, lavage, distanciation. On monitore tout ça là, pour voir comment le comportement des Québécois se fait. C'est sûr qu'on sent aussi qu'il y a comme l'alternance. Hein. Très, très peur. Après, deux, trois semaines après, on n'en peut plus. Il faut nous déconfiner. Très, très peur. Et ça, c'est pas facile. Et quand on est dans un secteur, on regarde notre secteur, puis on a des inquiétudes, puis on les comprend. Il faudrait que tout le Québec soit inquiet, puis que tout le Québec fasse ses efforts d'adhésion forte aux mesures.
OK, mais...
Et là, je comprends. Mais c'est un équilibre qui n'est pas facile. Je vais vous le dire, là. Si vous avez la recette, M. Arcand, donnez-moi-la.
Non, j'ai pas la recette, mais moi, j'écoute d'autres qui pensent peut-être avoir la recette, puis qui disent, par exemple, qu'on aurait dû fermer plus radicalement en janvier, qu'on aurait dû être plus sévère, peut-être un peu plus longtemps qu'on l'a été, puis que ça aurait été plus efficace. Vous en pensez quoi?
Ben écoutez, c'est facile à dire en rétrospective, hein, je vais vous le dire bien honnêtement. Puis souvent, les gens qui disent certaines choses, les gens ont entendu dire la chose différente la semaine d'avant. Puis on comprend ça, là, on n'est pas même nous, on change d'idée dans le temps. Mais quand on regarde aussi tout ce qui s'est passé à travers le monde comme tel, c'est pas toujours évident, là, la relation en tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je vous dirais là que j'ai pas la réponse. Elle est pas facile. Les décisions qu'on prenne sont discutées avec mes experts. Et puis c'est une gestion du risque. Hein. C'est vraiment une gestion du risque qu'on fait.
Okay.
Et puis, faut pas oublier les effets autres que les effets de la maladie.
En résumé, là, pour le AstraZeneca, 55 ans et moins, il ne sera pas donné. Les gens qui n'en veulent pas ne seront pas évidemment obligés de le recevoir. Ils pourront prendre un autre rendez-vous pour avoir un autre vaccin, donc d'un autre fabricant. Puis pour la deuxième dose d'AstraZeneca, c'est à déterminer. Ça pourrait être un autre fabricant.
Exactement. Vous avez très bien compris.
OK.
C'est une synthèse qui vaut toute l'entrevue.
Mais j'ai une dernière question pour vous. Les 55 ans et moins qui ont été vaccinés au Québec, pour beaucoup, c'est des gens du réseau de la santé, non? Ou en tout cas des travailleurs de première ligne, là.
Oui, effectivement, ou des gens qui ont été rejoints parce que c'est un vaccin qui permettait d'aller les vacciner à la maison, hein, ce qui est beaucoup plus difficile avec le Moderna et le Pfizer. Donc, ça peut être certaines clientèles qui ne pouvaient pas se déplacer, mais qui ont été vaccinées à la maison.
Mais ça veut dire, s'il y a bien des gens du réseau de la santé là-dedans, là, ça va être déjà qu'on a de la misère à les convaincre de se faire vacciner dans beaucoup de cas, ça va les rendre encore plus réticents, non?
Oui, mais je pense que c'est plus d'autres types de clientèle que des travailleurs de la santé qui ont été vaccinés avec ce vaccin-là. Okay. Parce que les travailleurs de la santé, initialement, des chefs de société et autres, ont reçu le Pfizer.
Parfait. Merci, Dr. Arruda. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Merci de bien informer la population.
Dr. Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique. Donc, on a fait, je pense, le tour de la question là-dessus.